On reprend, voilà, sur la Mishnah, sur du Seyag.
Et ce que je disais à ces dames, on va faire quelque chose de très exotique. On va parler de la richesse.
Quelque chose d'exotique, l'argent. La richesse, plus.
L'argent. J'ai de l'argent, c'est pas de la richesse.
Ce serait trop simple.
C'est quelle Mishnah? C'est troisième Perek, Mishnah Yud-Gimel. Je reprends peut-être la traduction. Et c'est donc Rabbi Akiva. Hein. On a fait Masoret Seyag la Torah. Et on est à Maasrot Seyag la Rochère. Les dîmes sont un rempart à la richesse. Les dîmes sont un rempart à la richesse. Je vous rappelle peut-être très brièvement ce que nous avions dit sur le mur, sur le seyag. Les murs sont faits soit pour protéger, soit pour enfermer. Pourquoi élève-t-on un rempart? Pour se protéger donc des agressions extérieures. En revanche, on élève des murs de prison pour protéger l'extérieur,
la société,
des agresseurs, enfermés, des agresseurs, donc enfermés dans la prison. C'était ça qui était donc important. Il faut toujours, quand il est question de Seyag, savoir de quoi il s'agit. J'avais aussi signalé la dernière fois que, quand bien même un Seyag serait là pour protéger l'intérieur fermé, clos, des agressions possibles de l'extérieur, lui, ouvert, illimité, le dehors, les agressions du dehors, il y a toujours la possibilité que ce seyag s'inverse, il y a toujours la possibilité de l'inversion, il y a toujours la possibilité que ce seyag s'inverse en mur de prison, se change en un mur de prison. Il est toujours possible que... Alors j'ai pris plusieurs exemples, hein. Bon, il y a l'exemple du moi, du ça, l'exemple du vieux barbon dans le théâtre, n'est-ce pas, le personnage du barbon au théâtre, il enferme sa jeune femme pour la protéger des regards concupiscents des jeunes hommes du dehors, mais très vite, la maison se change en une prison pour elle. Voilà. Bon, ça, c'est le ressort même de la comédie au théâtre. Ça, c'est la possibilité de l'inversion. Donc il faut toujours, lorsqu'on parle de Seyag, se demander, si c'est un rempart, se demander quel est l'intérieur, quel est l'extérieur. Dans le cas qui nous intéresse, donc Maasrot Seyag la Rochère, là, c'est très intéressant parce qu'on ne voit pas trop le sens que la formule peut avoir. Maasrot, les dîmes sont un rempart. J'ai dit à la richesse, c'est pas vrai, c'est un contresens. On avait Pourquoi c'est un contresens?
Parce qu'évidemment, ce n'est pas un rempart à la richesse. C'est au contraire un rempart pour la richesse.
C'est la richesse qui doit être protégée. Donc les dîmes sont un rempart devant la richesse. La richesse est regardée comme quelque chose d'intérieur qu'il faut enclore pour être protégé. On est d'accord? C'est très simple, jusque-là. Comment entend pourtant que, alors, qu'il faille n'importe quel homme fortuné, c'est qu'il faut protéger sa richesse, il faut protéger ses richesses contre les agressions possibles, hein, de l'extérieur. On verra qu'il y a toutes sortes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il met sa richesse dans un coffre. C'est l'image du coffre.
Vision.
Hein?
Ça, c'est la vision petite.
On verra, c'est pas la vision, c'est Harpagon, la vare. La cassette.
Un riche aujourd'hui.
Les 10 000 écus dans la cassette. Hein?
Un riche aujourd'hui, c'est plus celui qui place. Attends.
On va parler de ce riche-là.
On va parler de ce riche-là.
Et le petit bouton ne marche plus là? Les journaux.
On va parler de ce riche-là. C'est le dixième qu'on prélevait. Le dixième qu'on prélevait pour le lévite, pour le pauvre, pour soi lors des fêtes de pèlerinage. Mais voilà, c'est un dixième de sa récolte. Ça, c'est les dîmes. Comment peut-on... Alors, le coffre, je comprends. Le coffre, c'est bien un seyal, si je puis dire. C'est bien une sorte... C'est un enclos protecteur pour ma richesse. Mais les dîmes, ça n'a pas de sens. Les dîmes, au contraire, c'est perdre de l'argent. C'est prélever de l'argent. Ça s'appelle, en bon français d'aujourd'hui... Les prélèvements obligatoires. Hein? Ben ça, vous voyez, les gilets jaunes, ils en savent quelque chose, les prélèvements obligatoires. Ben, ces prélèvements obligatoires sont un rempart, parce que les prélèvements obligatoires dans le code mosaïque, ça s'appelle Masra. Bon, il y a aussi Trouma, bon, c'est marrant qu'on parle pas de Trouma. Mais disons que c'est un terme, une métonymie pour tous les prélèvements obligatoires. Masra. D'accord? Alors, comment peut-on dire que les prélèvements obligatoires sont un rempart devant la richesse?
Il faut entendre le mur comme ce qui permet de faire une prison. On met à l'écart la richesse en faisant le prélèvement.
On met à l'écart la richesse.
On met loin de nous la richesse. On l'enclos loin. On se sépare de notre richesse, on se tient à distance d'elle en faisant des. Enfin, par les prélèvements que l'on fait sur elle. Donc il faudra entendre mur, non pas comme étant un mur de protection, mais comme un mur de mise à l'écart.
C'est-à-dire, vas-y, précise.
Là, par exemple, pour la prison, voilà, quelque chose qui nous empêche. Par exemple, une prison, c'est les murs de prison, c'est un mur dans lequel tu
passes. C'est un empêchement par la richesse.
Voilà, c'est un mur dans lequel tu passes quelque chose d'indésirable, le prisonnier.
D'accord. Donc la richesse est indésirable.
Contre le vice de la richesse. Si tu donnes, ouais. D'accord. L'accumulation de richesse, c'est un truc de vicieux, là, d'accord. C'est un peu stupide, oui. Donc si tu es habitué à donner, c'est un peu une idée, ça crée une distanciation vis-à-vis de cette.
Oui, mais c'est pas du tout la mashmaout de la formule. C'est pas du tout le sens obvi du propos de Rabbi Akiva.
Ben sinon, tu comprends pas comment est-ce que les prélèvements peuvent protéger la richesse.
Mais voilà, je ne comprends pas.
On t'apporte humblement.
Mais non, mais oui, d'accord, mais si tu veux, c'est une réponse, bien sûr, moralisante, tout ce que tu. Mais c'est pas. Elle ne colle pas au texte, la réponse. Elle ne colle pas, là, dans le texte. Pourquoi pas. Ben, tu vas voir, en tout cas, c'est tous les mépharchim disent autre chose. Alors, justement, on va voir les mépharchim. Et notamment, bon, Rashi, pour commencer, et Rabbeinu Yonah. Et Rabbeinu Yonah, c'est très étonnant. Et Rashi, tout de suite, met les pieds dans le plat. Rashi dit, Aser, Taaser. Taaser. Le verset dit, c'est un verset dans Dvarim. Le verset dit, tu prélèveras la dîme. La dîme, tu prélèveras. Aser, taaser. Bon, c'est la formule, c'est une formule hébraïque. Une tournure hébraïque, on répète. Il y a une redondance, une répétition. Et là-dessus, on est d'Oresh. On interprète. C'est dans Ta'anit, cette fois. Et nous irons voir de près. On interprète. Aser. Bishvil Shetit. Alors, je dis Aser. Mais tout à l'heure, je ferai une autre hypothèse. Disons, l'hypothèse, enfin, la lecture convenue, c'est Aser. Bishvil Shekita Hashem. Fais la dîme pour t'enrichir. C'est un jeu de mots. Je vous fais un jeu de mots. Sur le deuxième Ta'aser, la dîme tu prélèveras, on entend la dîme, tu t'enrichis. Tita Hashem. Autrement dit, pourquoi les Maasrot sont un rempart? Alors voilà comment. Si Rashi racole, fait le raccord cette Gemara, enfin cette Memra de Rabbi Akiva et cette Gemara, c'est une Memra de Rabbi Yochanan, nous verrons. Il fait le raccord et il dit, oui, c'est Yag, ça veut dire que les Maasrat favorisent l'enrichissement personnel. Ça se saurait, mais on va voir que cette Gemara, elle est complètement. C'est des hallucinés. Bien sûr, moi je sais, j'en sens ça de tous les rabbins dans les choules, dès qu'il s'agit de faire une levée de fonds. Ah, certes, donnez la dîme. Là, vous en jetez vraiment deux, chérie. Et c'est le fameux, je voulais vous apporter un enregistrement de Louis Jouvet dans La Charrette Fantôme. Il y en a un très beau film de Duvivier. Je vous le sens que c'est Duvivier. Dans La Charrette Fantôme, il joue le rôle d'un mendiant. Et donc, il arrête une femme riche à la sortie d'une belle auto et lui demande l'aumône. Et ma bonne dame, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, 100 francs? Et il lui dit, c'est une affaire pour vous, le bon Dieu vous le rendra au centuple. C'est exactement ça. C'est, voilà, c'est Louis Jouvet. Non. C'est ça que dira bien qui va. De prime abord. Faites la dîme, prélevez la dîme, et vous en porterez bien mieux, vous vous enrichirez. Autrement dit, perdez de l'argent, à l'avenir, Dieu vous le rendra au centuple.
C'est l'investissement.
C'est l'investissement. Bon, ça c'est Rashi. Bon, tout de suite, hein, il met les pieds dans le plat ici de cette Gemara et Rabbeinu Yona va suivre les traces de Rashi. Voilà ce que dit Rabbeinu Yona. Vous l'avez? Je ne l'ai. Je ne crois pas qu'on a les photocopies. Vous le voulez ou...
Alors je vais
aller lentement parce qu'il est important. Kedam Rinan de Masechet Ta'anit. Comme on dit. Non, on va voir Ta'anit. Ça, c'est Ta'anit. Comme on dit dans le traité Ta'anit. Alototinog. S'agissant d'un jeune enfant, Shaya Kore, qui lisait. Aser Ta'aser. Il était tombé sur le pasouk Aser Ta'aser. Sur ce pasouk, donc, du Deutéronome. Amarlo Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui a dit Aser Mishvil Shetit Asher. Prélève la dîme pour t'enrichir. Amarlo. Et regarde ce qu'il lui dit, l'enfant. Alors, bon, on va voir dans le texte, mais l'enfant, c'était le fils de Resh Lakish, le fils orphelin de Resh Lakish. Resh Lakish, qui était le Talmid de Rabbi Yochanan, le Talmid Chaver et le beau-frère. En même temps, il épousait sa sœur. Donc son neveu, en fait. Mais là-bas, on dit Yenoka de Resh Lakish. Et l'enfant, qui est vraiment pour un enfant, est quand même perspicace, l'enfant lui dit Vechimutar Nenasot. Mais quoi, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est permis de tester Dieu? Bon, on va voir. C'est dans le texte de Rabbi Noura, c'est pas très clair, parce qu'en fait, il opère des coupes. Alors, on va voir dans le texte de Tanit, ce sera plus clair. Mais je veux que d'abord qu'on fasse Rabbeinu Yona. Va active, pourtant il était écrit, l'otenaso et Hashem lo kechem. C'est dans Massa, dans Masson Riva, il est dit, l'otenaso et Hashem lo kechem. Dorénavant, vous ne testerez plus Dieu, Hachem. Vous ne mettrez plus à l'épreuve Yubke Vafke, votre Dieu. Amarlo, Rabbi Yochanan lui répond. Donc vous voyez, imaginez le dialogue entre Rabbi Yochanan, déjà donc vénérable, parce qu'il a vécu très longtemps, 99 ans, et le jeune orphelin de Resh Lakish, en fait son neveu. Il lui répond, Amar Rabbi Oshaya. Non, mais Rabbi Oshaya dit, Chutz Mizo. C'est vrai, on ne doit pas mettre à l'épreuve, on ne doit pas mettre à l'épreuve le bon Dieu, sauf dans le cas de Maaser. Sauf dans le cas de Maaser. Et là, on cite, chez les marques, comme il est dit, Rabbi Oshaya cite un verset de Malachi. Dans Malachi, qui dit la chose suivante, Aviu et, donc Malachi 3:10, pour ceux que ça intéresse, bon, c'est un très très grand, c'est un des petits prophètes, comme moi, c'est un très grand prophète. Aviu et kol ha-maaser, amener, apporter toute la dîme, el bet ha-otsar, dans le bet ha-otsar, donc dans la salle du trésor du temple. Vi teref veveti, afin qu'il y ait du teref. Alors teref, c'est une proie, mais ici ça veut dire des provisions. Afin qu'il y ait, mais le terme il est fort. Afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Oufranouni. Et là, le bon Dieu dit lui-même, Oufranouni, et éprouvez-moi. Mettez-moi à l'épreuve. Bechina, comme on passe une bechima. Une bechina, c'est un examen. Un examen. Enfin, un mifran plutôt. Une bechina, c'est plutôt des. Ouais. Un mifran, un examen. Et donc, mettez-moi à l'épreuve. Faites-moi passer un contrôle. Bazot, là-dessus, Amar Hashem Tsevaot, dit Hashem Tsevaot, Imlo Eftar, et sur quoi porte l'examen? Imlo Eftar Lachem, si je, là c'est une tournure hébraïque, si je n'ouvre pas, si je ne vous ouvre pas, Arubot Hashamaim, les fenêtres du ciel, Varikotilachem bracha, et que je ne n'épanche pas pour vous bracha l'abondance adlidai jusqu'à n'en plus pouvoir. Donc il dit mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi, Et nous allons voir si vous m'apportez, si vous apportez le maaser dans le temple, nous allons voir si moi je ne vais pas ouvrir les fenêtres du ciel et déverser sur vous toute l'abondance. Mettez-moi en chanoun. Mettez-moi à l'épreuve. De là, Rabbi Hoshéa dit Khutsuzo. C'est vrai qu'il est dit Lotenasu. C'est vrai qu'il est dit vous ne mettrez pas à l'épreuve le bon Dieu. Lotenasu, vous ne mettrez pas à l'épreuve le bon Dieu. C'est vrai que c'est dit. Mais Khutsuzo. Mais ça ne vaut pas pour les dîmes. Autrement dit, moi, je vous dis que donner la dîme, ça vous enrichira. Mettez-moi à l'épreuve. Jusque-là, c'est la Gemara. Hein. Il continue. Maasrot seyag la osher. Donc je laisse juste, après il y a encore un petit bout de Gemara, mais ça, c'est pas pour intéressant pour notre propos. Maasrot seyag la osher. On est dans les dîmes sont un rempart pour la richesse. Donc tu n'oublieras pas de donner ton maaser. Sha'arotse la Ashir, dit Rabbeinu Yona. Celui qui veut faire fortune, Yiten Maasrotav Ben Yafé, il donnera ses dîmes Ben Yafé, avec d'un bon œil, de bon cœur, voilà, sans réticence. Ou chez l'Oyomar, et qu'il ne se dise pas. Élève, courim, yeshli, j'ai 1000 cours pour. Alors, c'est une grosse quantité de blé. J'ai, disons, comment on dit, c'est quoi là, l'unité de, pour le blé ? Quinteau de blé ? Boisseau de blé. Bon, j'ai 1000 boisseaux de blé. Eh, reten, meamem, comment vais-je donner ? Comment pourrais-je donner ? Car je vais donner 100, un dixième, donc 100. 100 boisseaux, les massers pour la dîme, ven, shavim, kama, alors que ça vaut. Ça vaut très cher. Quand on est des pauvres, donner maaser pour un, franchement, c'est pas un grand. Mais quand on est très très riche, quand on a 10, on possède 10 000, on gagne, allez, je sais pas combien il gagne, Gaune, le fantôme, le nouveau fantôme des geôles japonaises, je sais pas, 10, 15, 15 millions, 20 millions par an. Imaginez qu'ils doivent donner 2 millions de dîmes. Alors, et là, Hitlem, non qu'il les donne, dit Rabbeinu Yona, qui Hachem il barach, parce que Dieu, Hachem, Néhéman les Shalem, l'on kol machiten, parce que Hachem est digne de foi, il lui donnera, et le lui rendra, ou il arpile et tassachar, comme dit Jouvet, au centuple. Et regardez ce qu'il dit, alors là, c'est complètement délirant. Vehu emet gamal pi anisayon. Et c'est vrai, et c'est même vrai empiriquement. C'est empiriquement vrai. Il délire totalement. Délire total. Et vous savez pourquoi il dit Alpi Anisayon ? Parce qu'en vérité, vous allez voir dans la Gemara, c'est de ça qu'il s'agit, vous allez voir, mais il n'en parle pas vraiment, il a tronqué un peu la Gemara, mais dans Ta'anit, vraiment, il s'agit de cela. Vinyana Tzedaka, comment Amasra ? Donc lui, il dit, et d'ailleurs, bon, alors la charité, ce qu'on appelle la charité, l'homo, la charité, Tzedaka, ou que moi, Maasrot, c'est comme les Maasrot. Alors, quand on parle de Maasrot, c'est une métonymie. C'est aussi la tzedaka, c'est pas. C'est l'av d'afka, ça n'est pas stricto sensu. Les dîmes, c'est toutes les formes de dons. Ou barbot, bitzdaka, yosef, rocher, rochro. Et en abondant de charité, Yossif Osher al Rochro, il ajoutera de la richesse à sa richesse. Il augmentera sa richesse. Va alimana leva va adam. Et que le cœur de l'homme, qu'un homme ne se retienne pas de donner matanot gdolot levionim, de faire de grands dons, des dons importants aux pauvres. Benit ma'et oshro v'yaspikehu, sous prétexte que voilà, bah oui, si je donne beaucoup aux pauvres, moi je vais m'appauvrir, je vais amoindrir ma richesse. Veux-le expliquer où ? Et ça ne va plus me suffire. Si je donne beaucoup aux pauvres, moi, je vais perdre de l'argent. Évidemment, c'est une perte de richesse. La charité, le don. Donc si, je veux bien faire de la... Je veux bien donner de l'argent, mais si je n'en ressens pas la perte, mais si je dois en ressentir la perte, si c'est plus maspic, entre guillemets, bien sûr, je ne sais pas. Si ça ne me suffit plus, alors non, je ne vais pas le. Veyado Ayeda, il doit savoir, c'est toujours un bénévole, il doit savoir qu'Izot Yassiba et Lavla Asot Osher Mishpat, que c'est ça la cause qui fera que, donc l'obligation de Tzaka, qui fera qu'il produira de la richesse, Ben Mishpat. Avec légitimement, avec justement, qu'il aura une à la sainte recherche, c'est vraiment faire de la produire de la richesse, bémishpat, enfin produire, non, pas produire de la richesse, c'est amasser de la richesse, bémishpat, mais justement, légitimement. Il n'y a pas de légitimité. On n'est pas un riche légitime si l'on ne donne pas. Si l'on ne donne pas. Va Dershov et Ashir Agadol. Et que le riche, très riche, ne pense pas. Betito Arbe, Bitzdaka, en donnant beaucoup de Tzdaka, en donnant beaucoup de monde, ne pense pas. Il donne beaucoup de monde, mais Imlonatan le fut au Shrov Rav Nechassav. Il donne beaucoup, mais pas autant qu'il devrait en regard de la richesse qu'il possède. Donc c'est beaucoup, absolument parlant, mais c'est peu relativement à sa richesse personnelle. Qu'il ne pense pas à Shinake, qu'il est quitte.
Là, il n'est plus dans la...
Non, c'est Zaka. Hein. Mais pour lui, c'est pareil. Là, si tu veux, il extrapole un peu.
Oui, c'est des filles au chaud. Il y a pas des filles au
chaud. Ah non, oui, on n'est plus dans la serre, on est dans le Zaka, là. Qui y a les bilvavot vara, les morts, en pensant cette chose mauvaise. Kama maod pizarti bizdaka. Combien j'ai déjà dépensé, dilapidé d'argent en chari, en aumône. Kama vechama nefashot pen yamutu berav veitzaltim. Combien d'âmes déjà qui étaient menacées de mort, de famine, combien d'âmes j'ai déjà sauvées ? Ça va, j'ai sauvé beaucoup, j'ai donné à je sais pas quelle fondation, quelle association, etc. Contre la faim, j'ai sauvé beaucoup de. Ça suffit. Veu lo yada becholele. Et lui ne sait pas, ce riche, qui tov et ani, que le pauvre, noten dei marsoro, qui lui donne ce qu'il doit, donne beaucoup en regard de sa propre richesse. Celui-là, il est meilleur, ce pauvre, que le riche, venoten onrav, qui donne beaucoup. Que moi, maaser. Donc, comme un riche qui donne beaucoup, mais moins que le pauvre, en proportion, si vous voulez. Comme le maaser. qui arrache venlo qui imsea venata maasor karaoui, car un pauvre qui n'a que qu'une CA de blé, donc c'est une quantité de blé, mais un beaucoup moins, bien moindre, venata maasor karaoui, et qui donne une bonne dîme, vraiment la dîme, va acher yeshlo kamal afim seim, tandis que le riche lui possède des milliers de seim, de quintaux, venatan et maaser, et qui lui ne donne en maaser en dîme que maataim chaser achat, que 200 moins 1. Donc 200 quintaux moins 1, disons donc presque la dîme, mais pas tout à fait. Celui-là, yatsa yaninaki min chasav, le pauvre lui sort quitte, va acher une krayev maim. Le hachir, il est encore chayav de maaser. Il a beau avoir donné beaucoup plus que le pauvre, presque 200 fois plus que le pauvre, lui, il n'est pas quitte, le riche, pour autant. Ça, c'est dans Maaser, puisqu'on sait que le Maaser, c'est un taux d'imposition, c'est un taux fixe, c'est 10%. Donc si le riche, si riche qu'il soit, ne donne que 9,5%, eh bien, il n'est pas quitte de son Maaser. Le pauvre, lui, qui n'a qu'un quintal de blé, si lui s'acquitte, lui, il est quitte. Car, hatzdaka, de même la charité, le chol adam yeshlo liten kefi kol mashi yeshlo. Un homme doit donner en fonction de ce qu'il a. Hatzdaka, la charité. Imad vimarbe, peu ou peu. Voilà. Un homme possède beaucoup, il doit donner beaucoup. Et beaucoup, pour lui, beaucoup, relativement à sa propre richesse, pas aux yeux du monde. Voilà. Ça, c'est Rabbeinu Yonah. Le passage qui m'intéresse, c'est évidemment, ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue, c'est cette histoire de Ta'anit. Histoire de Ta'anit, quoi? Bon, après, il en tire une règle comme ça, intransigeante. Mais c'est ce passage ici de Ta'anit où l'on dit Aser Ta'aser, donc Asher Jut Ta'aser, prélève, le Maaser prélève la dîme et tu t'enrichiras, c'est pour ton propre profit, au fond. C'est dans ton propre intérêt. Ça, c'est intriguant. Et c'est d'autant plus intriguant, donc on va lire le passage très vite dans Ta'anit. Le passage, et parce que, encore une fois, Rabbeinu Yonah, sa citation est tronquée, le passage dit la chose suivante. Enfin, dans ce passage, on dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, donc c'est une mémoire de Rabbi Yochanan, Maïdertiv, que dit le verset? Qu'est-ce que c'est que ce verset qui dit « Aser ta'aser » Pourquoi cette répétition, cette redondance? Aser ta'aser, la dîme, tu prélèveras. Aser bishvin shetita'aser, comprends. Aser, prélève la dîme, bishvin shetita'aser, pour t'enrichir. Ashkechei Rabbi Yochanan, et là on raconte l'histoire. Ça c'est la même rade Rabbi Yochanan, on raconte l'histoire. Ashkechei Rabbi Yochanan li noka de Resh Lakish. Rabbi Yochanan rencontra l'enfant de Resh Lakish. Yonoka des Resh Lakish. Et c'était après, donc son neveu, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas son neveu, et c'est après la mort de Rachidi ou l'Achar Mitato Shel Resh Lakish. C'était après la mort de Resh Lakish. Amarle, Emali Psuker. L'enfant dit à Rabbi Yochanan, dis-moi le pasouk que tu lis. C'est ce que dit lui, Rabbeinu Yonah dit que c'est l'inverse. Mais on va voir dans l'ordre de trucs, il semble que ce soit pas là. Amarle, aser ta'aser. Il lui répondit, aser ta'aser. La dîme, tu prélèveras. Amarle, il lui demande, Umay aser ta'aser. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie, aser ta'aser? Amarle, il lui dit, aser bishvil sheti ta'aser. Donc c'est bien Rabbi Yochanan. Ça veut dire qu'il faut prélever la dîme pour s'enrichir. Amarle lui dit, l'enfant lui dit, Minalach, L'enfant lui dit, mais d'où tu sais ça, qu'on s'enrichit en prélevant le maaser? Vous savez ce qu'il lui répond à Rabbi Yochanan? À votre avis. Je vous le dis en hébreu, enfin en araméen, et puis... Zil nasé.
Vas-y, test.
Test. Va, fais l'expérience. Rabbi Yochanan. Au petit Lakish. Va, fais l'expérience. On ne voit pas trop ce que le petit Lakish pouvait faire comme maaser, mais bon. Et. Ouais, par exemple. Mais il ne se demande pas, le petit Lakish. Il lui dit ou Misharel et Nasouye, la Kadosh Baruch Hu. Mais quoi, est-ce qu'il est permis de tester le bon Dieu? Et donc, vous voyez qu'il y a le jeu de mots. Enfin, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'étrange dans. Parce que Rabbeinu Yonah, c'est de là qu'il tire son affaire de Nisayon, d'expérience. Il dit, les Rabbeinu Yonah dit, et l'expérience aussi l'atteste. Mais en fait, il ne s'agit pas de. Pas l'expérience. En fait, c'est il ne s'agit pas de d'en appeler, d'invoquer l'expérience. Il s'agit du bon Dieu, là. Il s'agit du bon Dieu dans la Gemara. De tester le bon Dieu. Amarle, alors. Il dit, il est pourtant écrit, l'otenasu et Hachem. Vous ne testerez pas, vous ne mettrez pas à l'épreuve Hachem. Amarle, etc., etc. Bon, tout la suite, vous le savez. Il y avait juste ce petit détail que Rabbeinu Yonah a tronqué. Rabbi Yochanan dit à l'enfant, Zil Nasé, va, fais l'expérience. Je trouve ce passage totalement délirant. Ça marche, totalement délirant. Rabbi Yochanan devait être déjà très vieux, avec complètement un peu sénile, c'est pas possible. Va, fais l'expérience. Prélève le maaser, va, tu verras, dans un an plus tard, tu seras riche.
C'est parlant dans la mesure où il y a Rabbi Yochanan parle à un enfant. Donc lui, l'enfant n'a pas encore jamais donné de maaser. Et donc il nous propose de tester, donc de commencer sa vie d'adulte en testant de ce fait. Ça serait moins parlant que si c'était un adulte. C'est beaucoup plus frappant que le gosse apprenne. Parce qu'il va pas donner tellement, mais il va directement l'avoir.
Mais qu'est-ce que tu dis? C'est un gosse, donc on peut lui raconter n'importe quoi?
Pas du tout.
Ah bon, quoi?
Mais ça veut dire qu'il commence dans la vie, donc il a les yeux tout ouverts et tout neufs.
Et donc c'est pour ça qu'il faut lui raconter des histoires.
Il les verra arriver, c'est sans truc de plus. Il les verra lui vraiment arriver. J'ai testé.
Ah, t'as fait le test. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes?
Bah, écoute, c'est pas un tinoc qui s'approche. Quelqu'un qui fait ça pour la première fois, c'est un tinoc, c'est un petit.
Oui.
Bah, il teste. Il a répondu, il le prend au mot, il aura exactement son tube. Bah, le petit, il le sait, maintenant c'est fini. Il a le droit de tester une fois, pas tout le temps.
Je comprends pas ce que c'est. Je comprends parce que pour toi c'est... Non mais tu comprends que Rabbi Yochanan dise et qui plus est un enfant, écoute, fais le test, fais l'essai. Ben, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Bon d'accord, il va donner. Allez, je ne sais pas s'il a gagné un paquet de bonbons, il va donner un bonbon. S'il a gagné 10 bonbons, il va donner un bonbon. Et alors, qu'est-ce qui va advenir? Qu'est-ce qui va arriver? Non mais dis-moi, je ne sais pas, il arrive quoi? Mais il n'arrive rien. La vie suit son cours, qu'est-ce que tu crois? La richesse, ça ne tombe pas du ciel, que le sage. Enfin, sauf... Sauf exception, mais...
Non, mais il a dit, tu donnes 10%, tu te rendrais 100. Donc c'est facile de donner 1. Ben, c'est ça le...
Mais non, il lui dit fais laisser. C'est-à-dire, voilà.
Ça veut dire.
Et l'autre, lui, et l'enfant lui dit mais enfin, qui est un enfant pas très enfantin. Très mûr. Cet enfant lui dit, mais enfin, tu crois qu'il est permis comme ça de mettre à l'épreuve le samedi soir? Laisse-le tranquille. On va le laisser tranquille. On va laisser Dieu donc tranquille. Et donc, s'il faut faire de l'argent, on fera de l'argent. On va pas se mettre à prélever comme ça. Comment t'as fait fortune? Moi, j'ai fait prélever 10% de 50 euros. J'ai donné 5 euros et j'ai fait fortune. C'est ridicule. C'est des comptes pour enfants, mais on parle pour enfants débiles. Non, c'est... Je vais même aux enfants, tu ne vas pas raconter ça. Non, mais je ne sais pas, demande à... Comment elle s'appelle, votre copine. Zenati, Valérie Zenati, elle ne va pas faire un conte d'histoire pour enfants avec ça.
Et pourtant, ce que tu as lu tout à l'heure dans le tableau, il ne dit que ça. Tout ce que j'ai noté là, c'est ouais. Ce qu'ils sont en train de faire.
Ouais.
Donc, on m'insère. Ouais. Et tu t'enrichiras. C'est tout ce que tu as
ouais. Rien d'autre. Rien ça. D'autre.
Mais est-ce
qu'il
s'est enrichi?
Les dîmes, non seulement conservent la richesse, c'est-à-dire ne conservent, c'est même pas ici. Alors déjà, on se dit, si les dîmes conservent la richesse, bon, ça n'a pas beaucoup de sens, mais. Bon, au moins, c'est déjà... Mais Rashi, ben, Rabbeinu Yona, mais... Voilà, parce que Rashi a mis les pieds dans le plat, alors le pauvre, il vient à la rescousse de Rashi. D'accord ? Rashi, lui, il fait le raccord. Il dit, oui, ce que dit Rabbi Akiva, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Enfin, c'est Rabbi Yochanan. Et postérieur, bien sûr. Mais, en gros, c'est un peu la même chose. Il dit, c'est un peu la même chose. En vérité, Rabbi Akiva dit Seyag la Hocher. Il dit pas pour autre. Il ne veut pas dire par là que les dîmes favorisent la richesse, comme semble vouloir le dire Rabbi Yochanan. Seyag, ça veut dire autre chose. C'est très étrange. Alors je ne dis pas que la Gemara déjà, la Memra de Rabbi Yochanan est très étrange. Cet échange avec le petit Lakish. Mais. Le raccord lui-même n'a pas beaucoup de sens. Quel serait, si l'on revient maintenant à la formule elle-même, c'est Yag la Hocher, quel serait le dehors? Le dehors. On dresse un rempart devant la richesse pour, semble-t-il, la protéger du dehors. Mais de quel dehors il s'agit? Bon, Pshat Pashut, première lecture, la plus simple, c'est quel dehors? Je lui dis simple, de faire simple. Panache, la pauvreté, la mort. Mais non, je te disais chose simple. Le dehors, t'as de l'argent. Tu veux le protéger, cet argent. Tu veux le protéger, il y a les concupiscents, il y a les envieux, là, tout autour. Là. Tu veux le protéger, ton argent, tes 10 000 louis. L'avare, Harpagon, c'est 10 000 louis. Qu'est-ce que tu veux? Ma cassette. Tu les fous dans une cassette. Seyag, la Hocher. La cassette, c'est un bon Seyag, la Hocher. Le dehors, c'est... Le dehors, c'est l'extérieur. C'est... Voilà, c'est tous ces envieux de par le monde. Tous les pauvres, les gilets jaunes, hein, les morveux qui viennent. L'argent, on veut votre argent. Voilà. Ceux-là, il faut un Seyag. Qu'est-ce qu'on fait? Macron. C'est Yad la Hocher. Macron, c'est Yad la Hocher. Voilà. Mais en vérité, ça c'est la première lecture. Mais il y a une autre lecture. plus fine.
Plus fine.
C'est que il n'y a pas qu'un dehors, je dirais, spatial. Ou il n'y a pas qu'un dehors spatialement parlant, si je puis dire. Il y a un dehors dans le temps, ou temporellement parlant, si je puis dire. C'est quoi ? C'est quoi l'extérieur en termes de temps ? C'est ça, prenez ça, la conscience, le pour-soi. Le pour-soi, il se décline sous deux modes. Pour-soi, la conscience, se projeter. Il y a deux façons de se projeter. Se projeter dans l'espace, dehors. Hein, je vous rappelle le texte de Sartre. S'éclater vers. Vers cet arbre-là, sur la route. Ça, c'est le premier sens du pour-soi. Mais le pour-soi, c'est aussi se projeter dans l'avenir. C'est aussi se projeter dans l'avenir. Espace, temps. Deux modalités, les deux modalités de la conscience, du pour-soi. Je me projette dans le monde et je me projette dans l'avenir. Espace, temps. Les deux modalités de la conscience. On est d'accord. Bien pour la richesse, on retrouve aussi ces deux modalités du Seyag pour la richesse. Il y a bien sûr Seyag, rempart, devant la richesse, pour la protéger de tous les envieux jaunissants. Mais il y a aussi le rempart devant la richesse, ou le rempart pour la richesse, face à l'avenir, face aux choses de l'avenir, aux choses du lendemain, comme dit Épicure. Parce que l'avenir est incertain. Et que, bien sûr, c'est pour ça qu'on va revenir à ton fameux investisseur, bien sûr, il est question de protéger sa richesse des regards envieux, harpagons, mais plus encore, bien plus encore, s'agit-il de protéger sa richesse des incertitudes du lendemain. C'est ça que j'appelle le dehors, temporellement parlant. C'est les deux modalités, si vous voulez, en termes de phénoménologie, c'est les deux modalités de l'extériorité. L'extériorité, ça n'est pas seulement, ça c'est très important, l'extériorité, ça n'est pas seulement le dehors, le monde, l'extérieur. L'extériorité, c'est aussi l'avenir. L'avenir. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Donc, pourquoi ? Alors, pourquoi l'avenir ? Pourquoi l'avenir ? C'est un dehors. L'avenir, comme l'extérieur, comme le dehors, est ouvert, est illimité. L'avenir est lourd de menaces. Quoi qu'on fasse pour se prémunir, il est lourd de menaces, il est lourd d'agressions, il est chargé, l'avenir est chargé, pour ainsi dire, d'agressions possibles, d'agresseurs possibles, toutes sortes d'agresseurs, pas seulement les jaunes, les concurrents, les... etc., etc.
L'inflation,
on ne va pas réénumérer tous les dangers possibles que l'avenir renferme. Il y a une chose aussi qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a de richesse, c'est en regard de l'avenir, et en regard même du passé, plutôt. Là, j'ai parlé de l'avenir. Je vais mettre juste une petite parenthèse sur le passé. il n'y a de richesse que présente. Je fais un peu de phénoménologie de la richesse. Il n'y a de richesse que présente. Qu'est-ce que je veux dire ? Une richesse passée, révolue, après une faillite, on était riche. Mais il ne reste rien. Donc, il n'y a de richesse, à proprement parler, que présente. Je veux dire que l'on est riche qu'au présent. On n'est pas riche au passé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'inverse, si je prends l'exemple de ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle en Occident l'œuvre. L'œuvre. Je produis, je sculpte, j'écris, je peins. D'accord ? L'œuvre est terminée, mon œuvre est terminée. Enfin, l'opus est terminé. Je ne sais trop combien. C'est terminé. C'est révolu. J'ai tourné la page. Il y a les œuvres de jeunesse, les œuvres de maturité, les œuvres de vieillesse, quand on a la chance de vieillir. D'accord ? Mais ces œuvres, tout révolues qu'elles soient, ces œuvres constituent toujours, sont toujours miennes. Une richesse passée révolue n'est plus mienne, elle est perdue, tandis qu'une œuvre, elle me reste. Elle peut bien passer, elle peut bien être révolue, cette œuvre me reste. C'est important d'avoir en tête que la richesse, donc c'est pour ça que je l'oppose à l'œuvre, parce que je veux que vous ayez en tête que on n'est jamais riche qu'au présent. Mais c'est pourquoi le riche ne peut même pas vivre sur son passé. Le riche ne peut pas se consoler d'avoir été riche. Il faut qu'il soit riche maintenant, ici et maintenant. Comme il dit en latin, hic et nunc. Il faut qu'il soit riche ici et maintenant. C'est ça qui fait la je vais essayer de faire la psychologie de l'homme riche. Ce que Épicure raconte, Épicure il dit, et quand bien même nous serions frappés de malheur dans la vieillesse, nous aurions toujours les souvenirs du passé pour nous apporter le plaisir le plaisir d'exister. Ça, c'est Épicure. Un très beau passage, une très belle maxime d'Épicure. Vous savez que j'aime bien Épicure. Ça n'est pas vrai pour l'homme riche. Il n'y a de richesse, de jouissance de la richesse qu'au présent. Ça, c'était dur. Donc, on a le présent. C'est le seul temps qui se conjugue pour l'homme riche et l'avenir. L'avenir, d'accord ? Le dehors, je m'en fiche, c'est pas très intéressant, c'est Harpagon. Ce qui m'intéresse, c'est cette dimension de l'avenir. L'avenir menace. L'avenir menace. L'homme riche. Que fait donc l'homme riche pour se protéger de l'avenir ? Que fait l'homme riche pour assurer, comme dit l'expression, assurer son avenir ? C'est l'obsession. Une obsession très, très prégnante de nos jours. Assurer son avenir. Alors, c'est encore plus vrai pour l'homme riche.
Il augmente sa richesse.
Avant de l'augmenter, qu'est-ce qu'il fait ? Il ? Oui, il thésaurise. Il thésaurise sa richesse. Il thésaurise. Thésaurus, en latin, c'est un otsar, un trésor, un coffre. Parfois, il la place. Mais il fait des placements qui rapportent. Je fais exception des gens comme mon grand-père, qui sont des aventuriers un peu tarés. Les tarés, bon, c'est des aventuriers. Eux se soucient pas trop. On ne peut pas appeler ça des hommes riches, d'ailleurs. Ma femme, quand je dis que mon grand-père était riche, elle me rionnait. Elle me disait, c'est un raté. Voilà, ton grand-père était un raté. Voilà, il n'y a rien à... Allez. En vérité, c'est pas si simple. C'est pas vrai. Il était toqué, mais... En gros, en somme, qu'est-ce que doit faire l'homme riche? Je le dis pas. Qu'est-ce qu'il doit... On a dit, bon, on a donné des exemples, mais les exemples ne disent les choses qu'à moitié. Qu'est-ce que doit faire l'homme riche pour s'assurer sa richesse dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on fait tous? Parce qu'on se croit tous plus ou moins riches, riches de quelque chose. On est tous un peu dans le fantasme de sa richesse personnelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, il faut que l'Épicure... C'est simple, il faut exorciser. C'est pas tout à fait ça, Épicure, mais en vérité, ce qu'il faut faire, ce qui s'impose, c'est qu'il faut exorciser l'avenir. Ça veut dire quoi, exorciser l'avenir? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que l'avenir ne soit qu'un présent qui dure. Ah oui, l'homme riche, encore une fois, n'est riche qu'au présent. L'avenir menace. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va faire en sorte que l'avenir ne soit jamais qu'un présent qui dure. Et vous comprenez pourquoi les riches sont des conservateurs. Fondamentalement, quoi qu'en dise Julien, c'est des innovateurs, c'est une blague. Foncièrement, c'est pas des innovateurs, c'est des conservateurs. Ça veut dire quoi, des conservateurs? Ça veut dire quoi, le conservatisme? Le conservatisme, ça veut dire que l'avenir, ça n'est jamais qu'un présent qui se prolonge. Ça n'est jamais que le présent qui dure. Oh, vous imaginez des gilets jaunes. C'est l'avenir, soudain se charge. L'avenir se charge de menaces nouvelles. Le problème pour ces gens, c'est que l'avenir redevient l'avenir. L'avenir, ça n'est plus ce présent qui dure, qui permet, c'est qui va, ce qui fait qu'ils peuvent jouir de leur richesse irréprochable. Même en pensant à l'avenir, parce qu'ils pensent l'avenir comme un présent qui dure. Mais si cette représentation de l'avenir, vous la cassez, vous la fêlez, mais c'est horrible. Imaginez les pauvres riches. Les pauvres. L'inquiétude les gagne. Les gagne parce qu'ils ne se représentent plus l'avenir comme un présent qui dure. Alors que tu vois, imaginez l'angoisse. C'est peut-être pire qu'un présent de famine. Non, je plaisante. Je veux dire, pour eux, c'est peut-être pire. Ils doivent éprouver ça, sentir ça. C'est pire que la famine. C'est pire qu'avoir faim, quoi. Le présent permanent. Il y avait le mythe trotskiste de la révolution permanente. Il y a le mythe conservateur du présent permanent. Qu'est-ce que dira bien qui va lui?
dans cette.
Rabbi Akiva dit, les prélèvements obligatoires, je fais exprès à l'appeler comme ça, une teinte un peu. Voilà. Par exemple. Les prélèvements obligatoires protègent la richesse des incertitudes du lendemain. Ça, c'est une relecture que je fais de Maasrat Seyag Laoshet. Les prélèvements protègent contre les incertitudes de lendemain. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas question, là, d'entendre que les Maasrat favorisent la richesse. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est Rabbi Yochanan. C'est cette histoire folle qu'on a vue dans ta vie. Là, c'est autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la richesse soit enclose, enclose, c'est Yag, c'est la clôture, soit enclose plutôt couverte, ouverte sur l'avenir. Alors la question c'est, est-ce qu'on revient à l'obsession de l'homme riche? Ce qu'on appelle la redistribution, à l'époque, redistribution au profit du Cohen, du Lévite et du déshérité, eh bien, Wani, cette redistribution forme, pour ainsi dire, un rempart face à l'avenir. Il s'agit de faire que la richesse soit, pour ainsi dire, intérieure, mais attention, intérieure, temporellement parlant. Donc, il ne s'agit pas de faire que l'avenir soit un présent continu, ou un présent continué. Il s'agit de faire que la richesse soit, entre guillemets, intérieure. C'est-à-dire fermé sur l'avenir et non plus ouvert. Pour le riche, sa richesse s'ouvre sur l'avenir, d'où sa crainte de l'avenir. Cette crainte de l'avenir dont, vous savez, Épicure a fait l'un des plus grands troubles de l'âme. Cette crainte de l'avenir. Qu'est-ce qu'il fait? Comment exorcise-t-il cette peur de l'avenir? En faisant, coûte que coûte, de l'avenir un présent continué. Il ne s'agit pas de cela pour Rabbi Akiva. Il s'agit que la richesse se ferme sur les choses de l'avenir. Ce que j'appelle, pour ainsi dire, on pourrait le dire, c'est un peu ambigu. Il s'agit d'intérioriser la richesse quand on est riche. Cette intériorisation de la richesse est tout le contraire de la capitalisation, donc de la thésaurisation. La capitalisation, c'est ce fait, s'opère sur un fond de crainte de l'avenir. Sur fond de crainte de l'avenir. L'intériorisation, c'est, au contraire, se fermer sur l'avenir. S'abstenir de projeter sa richesse dans l'avenir. Avec le risque, puisqu'il s'agit, je vais préciser, avec le risque, bien sûr, comme toujours, avec le risque que ces prélèvements ne s'inversent, encore une fois, c'est Yag, avec le risque que ces prélèvements ne s'inversent en prison pour la richesse. Avec le risque que ces prélèvements ne soient vécus comme une perte pour une perte de richesse. Ça c'est le risque du Seyag, c'est incontestable. On a dit qu'il y a toujours un risque. L'exemple le plus évident, c'est celui que je vous ai dit, celui de Mnebrak. C'est une société fermée, une société close, d'accord ? Une société du Seyag. D'accord ? Close, en close, pour se protéger des agressions de la société ouverte. La société dite profane. Pour se protéger, on forme un enclos, une société close, une société fermée. Le problème, c'est que très vite, cette société se change en prison. Et voilà, et que du coup, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Pareil ici, ces prélèvements, au lieu d'être l'occasion d'une intériorisation de la richesse pour le riche, c'est au contraire... Par inversion, c'est au contraire vécu comme privation. Les vrais prélèvements sont vécus comme un obstacle à l'ouverture de la richesse sur l'avenir. C'est comme un obstacle aux investissements, comme un obstacle, machin. Autrement dit, cette dimension de redistribution, parce qu'il s'agit bien d'une redistribution, alors bien sûr, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, alors le Lévite et le Kohen, ils ont un statut fixe, mais le Hani, il n'est pas sûr qu'on doive donner à n'importe quel pauvre, hein, bien sûr, hein, voilà. Bien sûr qu'il y a des pauvres qui sont des imposteurs, etc. Malgré leur pauvreté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on va supposer qu'on parle d'un pauvre authentique. Authentique. Alors, cette dimension distributive, pour être bien vécue, doit donc s'accompagner d'une intériorisation de la richesse et de l'absence de toute projection dans l'avenir. Être riche, et c'est ça, c'est comme ça que je vais relire le Aser Bishvil Shetit Asher. Quand on dit que Maasrot, les dîmes sont un seyag, la recherche, ça veut dire quoi ? C'est quoi les Maasrot ? C'est quoi les Maasrot ? C'est quoi donner le Maaser ? C'est tout simplement enrichir. Mais il y a deux sens à la richesse. Attention. Enrichir. Autrement dit, enrichir le Kohen, enrichir le Lévite, enrichir le pauvre. Mais sur un autre, dans un autre sens de la richesse que celui de la richesse de l'homme riche. Je vais m'expliquer là-dessus. Enrichir, du coup je relis, enrichir, donner le maaser, c'est s'enrichir. C'est pour ça que je serais même tenté de relire la dracha, non plus en Aser Bishvil Shetit Asher, mais Asher Bishvil Shetit Asher. Enrichi pour t'enrichir toi-même. Enrichi, donne le maaser. Aser, ça veut dire Asher, enrichi. Enrichi pour t'enrichir toi-même. Nul, dira bien qui va, nul n'est plus riche que celui qui enrichit. On va demander, mais pourquoi ? Il perd de l'argent. Il perd de l'argent. C'est de l'argent perdu. Donner de l'argent à un autre dans le besoin ou dans la dépendance. Dans le besoin, c'est le Hani. Dans la dépendance, c'est le Kohen ou le Lévi. Donner de l'argent à un autre dans le besoin, cet argent que l'on donne, c'est pas de l'argent perdu, c'est de la richesse. Cet argent que l'on croit perdre, c'est de la richesse. Pourquoi ? Parce qu'enrichir ici, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire procurer un surplus de biens. Très important la notion de surplus. Ça n'est pas procurer un surplus de biens. Comme on l'entend d'ordinaire. Enrichir quelqu'un, c'est lui procurer un surplus de biens. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut entendre ici enrichir. Enrichir, c'est procurer le nécessaire. Enrichir le pauvre, c'est lui procurer le nécessaire. Enrichir le lévite, c'est lui procurer le nécessaire. Enrichir le Kohen, c'est lui procurer le nécessaire. Bon, laissons le Kohen, parce que, d'ailleurs, il n'est pas question du Kohen directement, puisque les Kohanim étaient riches par ailleurs. Il faut bien comprendre cela. Il y a deux sortes de richesses, deux acceptions de la richesse. La richesse entendue communément comme le surplus, comme surplus. C'est-à-dire, non, si je dois une expression plus philosophique, un peu plus, le plus que nécessaire. Dès lors qu'on a plus que le nécessaire, on est riche. Voilà, riche, petitement riche, mais on est déjà riche. Ça, c'est dans l'acception commune. Le plus que nécessaire, ce que Rousseau appelle, dans sa langue très acérée, le superflu. Je ne vais pas dire le superflu, c'est trop péjoratif. Ça peut très vite, évidemment, dégénérer en superflu. Mais il s'agit, non, du plus que nécessaire. Une formule plus neutre. Le plus que nécessaire, le surplus ou le plus que nécessaire. Ça, c'est le sens commun du mot richesse. Plus que nécessaire, ça veut dire précisément le plus que nécessaire, comme dirait Marx, plus que nécessaire à la reproduction de la force de travail. C'est comme ça qu'il définit le nécessaire, Marx. C'est-à-dire ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail. Vous êtes un homme est une force de travail. Eh bien, il travaille, il se fatigue, il faut reproduire sa force de travail, c'est ce qu'on appelle le nécessaire. Voilà. En général, c'est le salaire qu'on lui verse, c'est uniquement ça. C'est-à-dire pour le capitaliste, dans la critique marxiste, le salaire qu'il lui verse est uniquement dans le but qu'il reproduise sa force de travail et qu'il redevienne productif. Ça, c'est le premier sens, la première acception, l'acception commune du mot richesse. La deuxième acception du mot richesse, c'est celle que, à mon sens, Rabbi Akiva ici, qui par ailleurs, de pauvre est devenu riche, ça c'est pour la petite histoire, devenu très riche, nous livre ici. La richesse, c'est le nécessaire, lui-même, et non plus le plus que nécessaire, le nécessaire lui-même, pour autant qu'il m'est octroyé. Voilà. Pour autant qu'il m'est octroyé. Sans que j'aie à peiner,
autrefois,
à mal, sans que j'aie à peiner pour le produire, pour la produire, cette richesse. C'est tout le contraire de l'efunsara agra, à la peine, le salaire. Pourquoi ? Parce que là, le salaire correspond, enfin correspond, oui, correspondant à la peine, c'est ce qu'on appelle le dû. Le dû. Là, c'est du nécessaire qui ne m'est pas dû. Je n'ai pas travaillé pour l'avoir. Je n'ai rien fait pour l'avoir. Il ne m'est pas dû, il m'est octroyé. Ça, c'est de la richesse. Ça s'appelle de la richesse. Évidemment, encore une fois, il y a toujours le risque que ce nécessaire non dû, ce nécessaire octroyé, ne soit regardé comme du nécessaire.
Tu ne peux pas dire les nécessaires. Ouais,
indu. Le non dû très vite peut évidemment très vite glisser en nécessaire indu. C'est-à-dire, ces salopes pauvres, ils nous bouffent toute notre fric. On paye pour eux. C'est indu qui travaille. Hein, grand discours viril du bourgeois. Salaud de peau. Ah bien qui veut, Mélie. Bravo. Une grande confusion mentale. On savait que les bourgeois étaient mentalement confus. Mais là, c'est flagrant. Quelle confusion entre le non, le nécessaire octroyé et le nécessaire indu. Parce qu'au fond, c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait répliquer, ce qu'on réplique d'ordinaire aux bourgeois, je veux dire les gauchistes. C'est que, hé, hey, tu nous parles du nécessaire indu, mais moi je te parle de la richesse indue. C'est plus grave, ça. Bon, bah on ne va pas refaire les procès sempiternels. Ah, j'ai entendu ça. Pauvres qui sortaient de la pauvreté, qui accédaient au statut social de bourgeois, qui après se retournaient contre ce qu'on appelait jadis le prolétariat, crachaient sur les pauvres et disaient « Salope pauvre, comment vous ne vaut rien, paresseux, pouilleux, voilà. » Alors, ces deux acceptions de la richesse ne sont pas équivalentes. Alors, il y a deux, pour ainsi dire, il y a deux richesses, d'accord ? Le plus que nécessaire, donc la richesse du riche, et le nécessaire octroyé, qui est la richesse du pauvre, ou du lévite, ou du... Bon, laissons le Cohen. Ces deux richesses ne sont cependant pas équivalentes. Pourquoi ? Parce que la première, la richesse, le plus que nécessaire, c'est une richesse pour soi. Pour soi. D'accord ? C'est une richesse pour soi. Le plus que nécessaire, ça n'est jamais une richesse que pour soi-même. Alors bien sûr, on peut lancer quelque chose, on peut t'associer à cette opulence, on peut t'associer, ses proches, la parentèle, j'en sais quelque chose, hein. Mais ça n'est pas de la richesse pour l'autre. Ça n'est pas de la richesse pour l'autre. Être associé à la dépense du riche, ça ne fait pas de cette richesse une richesse pour l'autre. Ça reste toujours de la richesse pour soi, même si l'on y associe les beaux-frères, les cousins, etc. C'est pourquoi je n'appellerai pas ça, n'en déplaise, de la générosité, puisque la générosité vise, c'est du pour l'autre, pas du pour soi, c'est du pour l'autre. Ça n'est pas la générosité, c'est ce que Aristote appelle, ou le Rambam, ça suit, de la prodigalité. La prodigalité. La prodigalité, c'est un vice. Alors, c'est un vice, c'est quand même mieux que l'avarice. Mais c'est, de la, c'est pas encore de la générosité, c'est pas encore de la vertu. Ça n'est pas une richesse pour l'autre, tandis que le nécessaire octroyé, c'est une richesse pour l'autre. Seulement, et c'est ça, nous, ça n'est pas qu'une richesse pour l'autre. C'est-à-dire quand le riche donne le nécessaire au pauvre, par exemple, ou Annie, ça n'est pas qu'une richesse pour l'autre. Quand il enrichit, au sens où je l'ai dit, le pauvre, il rend manifeste sa richesse, donc le surplus, il rend manifeste sa richesse comme surplus, en même temps que celle-ci devient une richesse pour l'autre. C'est, comme vous voyez, dialectique, comme on dit en philosophie. Donc, en même temps qu'elle devient richesse pour l'autre, au sens de, elle se manifeste comme richesse. Cette richesse pour l'autre se manifeste comme richesse au sens 1, c'est-à-dire comme surplus.
C'est pour lui-même, tu veux dire ?
Oui, pour lui-même. Il manifeste sa richesse comme... sa richesse s'affirme comme surplus, mais plus pour soi. Et non plus pour l'autre. Parce que pour l'autre, c'est la richesse, mais au sens d'eux. Donc ça se manifeste comme surplus, ça s'affirme comme surplus, mais pur. Et pas... ce qu'on appelle, c'est pas une richesse égoïste.
Excusez-moi, est-ce qu'à ce moment-là, la prodigalité devient générosité ou pas ?
Ben oui, c'est plus de la prodigalité, c'est de la générosité. Du moment que c'est de la richesse pour l'autre, c'est de la générosité. Or, ça n'est possible, ça, c'est ça de la part du riche, ça n'est possible, parce que bien sûr, évidemment, il y a très peu de riches qui soient de cette darga, qui soient de cette élévation. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de faire le procès des riches. Pas du tout. Il ne fait pas d'avoir été lui-même très riche. Il ne s'agit pas de faire le procès des riches. Donc il s'agit qu'un riche le soit tout autrement qu'il ne l'est d'ordinaire. Ça n'est possible. Donc, de procurer, d'enrichir, de procurer le nécessaire à l'autre, ça n'est possible que si l'on vit sa propre richesse, au sens 1, donc ce surplus qu'on possède, comme trop. Comme trop. Ça n'est possible que si l'on vit sa propre richesse comme trop. C'est-à-dire seulement à la condition que l'on vive sa richesse au présent, sans s'ouvrir riche à l'avenir. Pourquoi ? C'est simple. C'est pas simple, mais je vais essayer de faire simple. Parce que la richesse au sens 1. Face aux incertitudes de l'avenir, cette richesse, ça n'est jamais trop. Face aux incertitudes, on n'est jamais assez riche. C'est pour ça que ça détraque un riche, le souci de l'avenir. Ça le détraque. On dit l'hubris du riche. Platon dit l'hubris, mais en fait, il n'a pas compris le mécanisme. Il dit l'hubris, il dit c'est irrationnel. Non, c'est pas irrationnel. Ça lui vient de la peur de l'avenir. On n'est jamais assez riche contre les incertitudes de l'avenir. Jamais. Par conséquent, si on s'ouvre à l'avenir, on ne vivra jamais sa richesse comme trop. Par conséquent, on ne pourra jamais procurer le nécessaire, enrichir le pauvre du nécessaire, enrichir le lévite du nécessaire. On ne le pourra pas. On ne pourra pas. Parce qu'on vivra toujours sur le mode de la perte et de la privation. Donner, c'est perdre de l'argent. Or, on n'est jamais assez riche face à l'avenir. Voilà. Très important de comprendre ça. Ça n'est pas rien, l'hubris. Et c'est pourquoi Épicure est bien plus grand qu'on dit. Parce que Épicure est peut-être le premier, même Platon, Socrate, le premier à avoir pris la mesure de ce que pouvait être dans la vie d'un homme, la crainte, des conséquences que pouvait avoir dans la vie, dans l'existence humaine, la crainte de l'avenir. Et dans l'âme d'un homme riche, ces conséquences sont désastreuses. Bon, de toute façon, on voit où ça nous mène, où ça mène le monde. Voilà, on va s'arrêter là. Oui, c'est ça que ça veut dire.
Parce que c'est
en fait lui. Bah oui, c'est toujours subjectivé. Quand on a dit la richesse, il faut l'entendre subjectivement.